Chapitre 8. Les Anglais ne perdront-ils pas un jour leur liberté ? Beaucoup de personnes éclairées, qui savent à quel degré s'élèverait la prospérité de la nation française si les institutions politiques de l'Angleterre étaient établies chez elles, se persuadent que les Anglais en sont jaloux d'avance et s'opposent de tous leurs moyens à ce que leurs rivaux puissent jouir de cette liberté dont ils connaissent les avantages. En vérité, je ne crois point à ce sentiment, du moins de la part de la nation. Elle est assez fière pour être convaincue, et avec raison, que pendant longtemps encore, elle marchera en avant de toutes les autres. Et quand la France l'atteindrait, et la surpasserait même sous quelque rapport, elle conserverait toujours des moyens exclusifs de puissance, particuliers à sa situation. Quant au ministère, celui qui le dirige, le secrétaire d'État des Affaires étrangères, semble avoir, comme je l'ai dit et comme il l'a prouvé, un tel mépris pour la liberté que je crois vraiment qu'il en céderait à bon marché, même à la France. Et pourtant, la défense d'exportations hors d'Angleterre a presque uniquement porté sur les principes de la liberté, tandis que nous aurions désiré, au contraire, qu'à cet égard aussi, les Anglais voulussent bien nous communiquer les produits de leur industrie. Le gouvernement anglais veut à tout prix éviter le retour de la guerre, mais il oublie que les rois de France les plus absolus n'ont pas cessé de former des projets hostiles contre l'Angleterre, et qu'une constitution libre est bien plus une garantie pour la durée de la paix que la reconnaissance personnelle des princes. Mais ce qu'on doit surtout, ce me semble, représenter aux Anglais, même à ceux qui sont exclusivement occupés des intérêts de leur patrie, c'est que si, pour empêcher les Français d'être factieux ou libres, comme on le voudra, il faut entretenir une armée anglaise sur le territoire de la France, la liberté de l'Angleterre est exposée par cette convention indigne d'elle. On ne s'accoutume point à violer l'indépendance nationale chez ses voisins sans perdre quelques degrés d'énergie, quelques nuances de la pureté des doctrines, lorsqu'il s'agit de professer chez soi ce qu'on renie ailleurs. L'Angleterre partageant la Pologne, l'Angleterre occupant la Prusse à la Bonaparte, aurait moins de force pour résister aux empiètements de son propre gouvernement dans l'intérieur. Une armée sur le continent peut l'entraîner à des guerres nouvelles, et l'état de ses finances doit les lui faire craindre. À ces considérations, qui ont déjà vivement agi dans le Parlement, lors de la question sur la taxe des propriétés, il faut ajouter la plus importante de toutes, le danger imminent de l'esprit militaire. Les Anglais, en faisant du mal à la France, en y portant les flèches empoisonnées d'Hercule, peuvent, comme Philoctète, se blesser eux-mêmes. Ils abaissent, ils foulent aux pieds leurs rivales, mais qu'ils y prennent garde, la contagion les menace. Et si en comprimant leurs ennemis, ils étouffaient le feu sacré de leur esprit public, la vengeance ou la politique à laquelle ils se livrent éclaterait dans leurs mains comme une mauvaise arme. Les ennemis de la Constitution d'Angleterre répètent sans cesse sur le continent qu'elle périra par la corruption du Parlement et que l'influence ministérielle s'accroîtra jusqu'au point d'anéantir la liberté. Rien de pareil n'est à craindre. Le Parlement en Angleterre obéit toujours à l'opinion nationale. Et cette opinion ne peut être corrompue dans le sens qu'on attache à ce mot, c'est-à-dire payer. Mais ce qui est séduisant pour toute nation, c'est la gloire des armes, le plaisir que les jeunes gens trouvent dans la vie des camps, les jouissances vives que les succès de la guerre leur procurent, sont beaucoup plus conformes au goût de leur âge que les bienfaits durables de la liberté. il faut être un homme de mérite pour avancer dans la carrière civile. Mais tous les bras vigoureux peuvent manier un sabre, et la difficulté de se distinguer dans l'état militaire n'est point en proportion avec la peine qu'il faut se donner pour s'instruire et pour penser. Les emplois qui se multiplient dans cette carrière donnent au gouvernement des moyens de tenir dans sa dépendance un très grand nombre de familles. Les décorations nouvellement imaginées offrent à la vanité des récompenses qui ne dérivent pas de la source de toute gloire, l'opinion publique. Enfin, c'est saper l'édifice de la liberté par les fondements que d'entretenir une armée de ligne considérable. Dans un pays où la loi règne et où la bravoure, fondée sur l'amour de la patrie, est au-dessus de toute louange, dans un pays où les milices valent autant que des troupes réglées, où, dans un clin d'œil, les menaces d'une descente créèrent non seulement une infanterie, mais une cavalerie aussi belle qu'intrépide, pourquoi forger l'instrument du despotisme ? Tous ces raisonnements politiques sur l'équilibre de l'Europe, ces vieux systèmes qui servent de prétexte à de nouvelles usurpations, n'étaient-ils pas connus des fiers amis de la liberté anglaise quand ils ne permettaient pas l'existence d'une armée de ligne, du moins assez nombreuse pour que le gouvernement s'appuyât sur elle ? L'esprit de subordination et de commandement, tout ensemble, cet esprit nécessaire dans une armée, rend incapable de connaître et de respecter ce qu'il y a de national dans les pouvoirs politiques. Déjà, l'on entend quelques officiers anglais murmurer des phrases de despotisme, bien que leur accent et leur langue semblent se prêter avec effort aux paroles flétries de la servitude. Lord Castlereagh a dit dans la Chambre des communes que l'on ne pouvait, en Angleterre, se contenter des fracs bleus quand toute l'Europe était en armes. Ce sont pourtant les fracs bleus qui ont rendu le continent tributaire de l'Angleterre. C'est parce que le commerce et les finances avaient pour base la liberté. C'est parce que les représentants de la nation prêtaient leur force au gouvernement, que le levier qui a soulevé le monde a pu trouver son point d'appui dans une île moins considérable qu'aucun des pays auxquels elle prêtait ses secours. Faites de ce pays un camp, et bientôt après une cour, et vous verrez sa misère et son abaissement. Mais le danger que l'histoire signale à chaque page pourrait-il n'être pas prévu, n'être pas repoussé par les premiers penseurs de l'Europe, que la nature du gouvernement anglais appelle à se mêler des affaires publiques ? La gloire militaire, sans doute, est la seule séduction redoutable pour des hommes énergiques. Mais comme il y a une énergie bien supérieure à celle du métier des armes, l'amour de la liberté, et que cet amour inspire tout à la fois le plus haut degré de valeur quand la patrie est exposée, et le plus grand dédain pour l'esprit soldatesque aux ordres d'une diplomatie perfide, on doit espérer que le bon sens du peuple anglais et les lumières de ses représentants sauveront la liberté du seul ennemi dont elle est à se préserver, la guerre continuelle et l'esprit militaire qu'elle amène à sa suite. Quel mépris pour les Lumières, quelle impatience contre les lois, quel besoin du pouvoir, ne remarque-t-on pas dans tous ceux qui ont mené longtemps la vie des camps ? De tels hommes peuvent aussi difficilement se soumettre à la liberté que la nation à l'arbitraire. Et dans un pays libre, il faut, autant qu'il est possible, que tout le monde soit soldat, mais personne en particulier. La liberté anglaise, ne pouvant avoir rien à craindre que de l'esprit militaire, il me semble que sous ce rapport, le Parlement doit s'occuper sérieusement de la situation de la France. Il le devrait aussi par ce sentiment universel de justice qu'on peut attendre de la réunion d'hommes la plus éclairée de l'Europe. Son intérêt propre le lui commande. Il faut relever l'esprit de liberté que la réaction causée par la Révolution française a nécessairement affaibli. Il faut prévenir les prétentions vaniteuses à la manière du continent qui se sont glissées dans quelques familles. La nation anglaise tout entière et l'aristocratie du reste du monde par ses lumières et ses vertus. Que serait à côté de cette illustration intellectuelle quelques disputes puériles sur les généalogies? Enfin, il faut mettre un terme à ce mépris des nations sur lequel la politique du jour est calculée. Ce mépris, artistement répandu, comme l'incrédulité religieuse, pourrait attaquer les bases de la plus belle des croyances dans le pays même où son temple est consacré. La réforme parlementaire, l'émancipation des catholiques, la situation de l'Irlande, toutes les diverses questions qu'on peut agiter encore dans le Parlement anglais seront résolues d'après l'intérêt national et ne menacent l'État d'aucun péril. La réforme parlementaire peut s'opérer graduellement en accordant chaque année quelques députés de plus aux villes nouvellement populeuses, en supprimant avec indemnité les droits de quelques bourgs qui n'ont presque plus d'électeurs. Mais la propriété a un tel empire en Angleterre qu'on ne choisirait jamais des représentants du peuple amis du désordre quand la réforme parlementaire serait opérée tout entière en un seul jour. Peut-être même les hommes de talent sans fortune y perdraient-ils la possibilité d'être nommés, puisque les grands propriétaires des deux partis n'auraient plus de place à donner à ceux qui n'ont pas les moyens de fortune nécessaires pour se faire élire dans les comtés et dans les villes. L'émancipation des catholiques d'Irlande est réclamée par l'esprit de tolérance universelle qui doit gouverner le monde. Toutefois, ceux qui s'y opposent ne repoussent point tel ou tel culte, mais ils craignent l'influence d'un souverain étranger, le pape, dans un pays où les devoirs de citoyens doivent l'emporter sur tout. C'est une question que l'intérêt décidera, puisque la liberté de la presse et celle des débats ne laissent rien ignorer en Angleterre sur ce qui concerne l'intérieur du pays. Si les affaires extérieures y étaient aussi bien connues, il n'y aurait pas une faute de commise à cet égard. Il importe certainement à l'Angleterre que l'état de l'Irlande soit autre qu'il n'a été jusqu'à présent. On doit y répandre plus de bonheur et par conséquent plus de lumière. La réunion à l'Angleterre doit valoir au peuple irlandais les bienfaits de la Constitution. Et tant que le gouvernement anglais s'appuie pour suspendre la loi sur la nécessité des actes arbitraires, il n'a point rempli sa tâche, et l'Irlande ne peut s'identifier sincèrement avec la patrie qui ne lui communique pas tous ses droits. Enfin, c'est un mauvais exemple pour les Anglais, c'est une mauvaise école pour leurs hommes d'État que l'administration de l'Irlande. Et si l'Angleterre subsistait longtemps entre l'Irlande et la France dans l'état actuel, elle aurait de la peine à ne pas se ressentir de la mauvaise influence que son gouvernement exerce habituellement sur l'une et maintenant sur l'autre. Le peuple ne rend heureux l'homme qui le sert que par la satisfaction de la conscience. Il ne peut inspirer de l'attachement qu'aux amis de la justice, aux cœurs disposés à sacrifier leurs intérêts à leurs devoirs. Il en est beaucoup et beaucoup de cette nature en Angleterre. Il y a dans ces caractères réservés des trésors cachés qu'on ne discerne que par la sympathie, mais qui se montrent avec force dès que l'occasion le demande. C'est sur eux que repose le maintien de la liberté. Toutes les divagations de la France n'ont point jeté les Anglais dans les extrêmes opposés. Et, bien que dans ce moment, la conduite diplomatique de leur gouvernement soit très répréhensible, à chaque session le Parlement améliore une ancienne loi, en prépare de nouvelles, traite des questions de jurisprudence, d'agriculture et d'économie politique, avec des lumières toujours croissantes, enfin se perfectionne chaque jour, tandis qu'ailleurs on voudrait tourner en ridicule ces progrès sans lesquels la société n'aurait aucun but que la raison puisse expliquer. Néanmoins, la liberté anglaise échappera-t-elle à cette action du temps qui a tout dévoré sur la terre? La prévision humaine ne saurait pénétrer dans un avenir éloigné. Cependant, on voit dans l'histoire les républiques renversées par des empires conquérants, ou se détruisant elles-mêmes par leurs propres conquêtes. On voit les peuples du Nord s'emparer des États du Midi, parce que ces États tombaient en décadence, et que d'ailleurs le besoin de la civilisation portait avec violence une partie des habitants de l'Europe vers les contrées méridionales. Partout, on a vu les nations périr, faute d'esprit national, faute de lumière, et surtout à cause des préjugés, qui, en soumettant la plus nombreuse partie d'un peuple à l'esclavage, au servage ou à toute autre injustice, la rendaient étrangère au pays qu'elle pouvait seule défendre. Mais, dans l'état actuel de l'ordre social en Angleterre, après un siècle de durée des institutions qui ont formé la nation la plus religieuse, la plus morale et la plus éclairée dont l'Europe puisse se vanter, je ne concevrais pas de quelle manière la prospérité du pays, c'est-à-dire sa liberté, pourrait être jamais menacée. Dans le moment même où le gouvernement anglais penche vers la doctrine du despotisme, quoique ce soit un despote qui l'ait combattu. Dans le moment où la légitimité, violée authentiquement par la Révolution de 1688, est soutenue par le gouvernement anglais comme le seul principe nécessaire à l'ordre social. Dans ce moment de déviation passagère, on entrevoit déjà que par degrés, le vaisseau de l'État se remettra en équilibre. Car, de tous les orages, celui que les préjugés peuvent exciter est le plus facile à calmer dans la patrie de tant de grands hommes, au foyer de tant de lumières. Chapitre 9. Une monarchie limitée peut-elle avoir d'autres bases que celles de la Constitution anglaise ? On trouve dans les œuvres de Swift un petit écrit intitulé « Les conversations polies » qui renferme toutes les idées communes dont se composent les entretiens du grand monde. Un homme d'esprit avait l'idée de faire le même travail sur les entretiens politiques d'aujourd'hui. La Constitution d'Angleterre ne convient qu'à des Anglais. Les Français ne sont pas dignes qu'on leur donne de bonnes lois. Il faut se garder de théorie et s'en tenir à la pratique. Qu'importe, dira-t-on, que ces phrases soient fastidieuses si elles renferment un sens vrai. Mais ce qui les rend fastidieuses, c'est leur fausseté même. La vérité sur de certains objets ne devient jamais commune, quelque répétée qu'elle soit. Car chaque homme qui la dit, la sent et l'exprime à sa manière. Mais les mots d'ordre de l'esprit de parti sont les signes indubitables de la médiocrité. On est à peu près sûr qu'une conversation, qui commence par ses sentences officielles, ne vous promet que du sophisme et de l'ennui tout ensemble. En mettant donc de côté ce langage frivole, qui aspire à la profondeur, il me semble que les penseurs n'ont pu trouver jusqu'à ce jour d'autres principes de la liberté monarchique et constitutionnelle que ceux qui sont admis en Angleterre. Les démocrates diront qu'il faut un roi sans patriciat, ou qu'il ne faut ni l'un ni l'autre. Mais l'expérience a démontré l'impossibilité de ce système. Des trois pouvoirs, les aristocrates ne contestent que celui du peuple. Ainsi, quand ils prétendent que la Constitution anglaise ne peut s'adapter en France, ils disent simplement qu'il ne faut pas de représentants du peuple, car ce n'est sûrement pas la noblesse ni la royauté héréditaire qu'ils contestent. Il est donc évident que l'on ne peut s'écarter de la Constitution anglaise sans établir la République en retranchant l'hérédité. Ou le despotisme en supprimant les communes, car des trois pouvoirs, on n'en peut ôter aucun sans produire l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. Après une révolution telle que celle de France, la monarchie constitutionnelle est la seule paix, le seul traité de Westphalie, pour ainsi dire, que l'on puisse conclure entre les lumières actuelles et les intérêts héréditaires, entre la nation presque entière et les privilégiés appuyés par les puissances européennes. Le roi d'Angleterre jouit d'un pouvoir plus que suffisant pour un homme qui veut faire le bien. Et j'ai de la peine à concevoir comment la religion même n'inspire pas au prince des scrupules sur l'usage d'une autorité sans bornes. L'orgueil l'emporte, en cette occasion, sur la vertu. Quant à l'argument très usé de l'impossibilité d'être libre dans un État continental, où l'on doit conserver une nombreuse armée de ligne, les mêmes gens qui le répètent sans cesse sont prêts à citer l'Angleterre en sens inverse et à dire que là, maintenant, l'armée de ligne n'est pas dangereuse pour la liberté. c'est une chose inouïe que la diversité des raisonnements de ceux qui renoncent à tous les principes. Ils se servent des circonstances quand la théorie est contre eux, et de la théorie quand les circonstances démontrent leurs erreurs. Enfin, ils se replient avec une souplesse qui ne saurait échapper au grand jour de la discussion, mais qui peut égarer les esprits, quand il n'est permis ni de faire taire les sophistes, ni de leur répondre. Si l'armée de ligne donne plus de pouvoir aux rois de France qu'à ceux d'Angleterre, les ultra-royalistes, suivant leur manière de penser, jouiront de cet excédent de force, et les amis de la liberté ne le redoutent point si le gouvernement représentatif et ses garanties sont établis en France sincèrement et sans exception. L'existence de la Chambre des pairs doit réduire, il est vrai, le nombre des familles nobles. Mais l'intérêt public souffrira-t-il de ce changement? Les familles historiques se plaindront-elles de voir associer à la pairie des hommes nouveaux que le roi et l'opinion en jugeraient dignes? La noblesse qui a le plus à faire pour se réconcilier avec la nation serait-elle la plus obstinément attachée à des prétentions inadmissibles? Nous avons l'avantage, nous autres Français, d'être plus spirituels, mais aussi plus bêtes qu'aucun autre peuple de l'Europe. Je ne sais si nous devons nous en vanter. Des arguments qui méritent un examen plus sérieux, parce qu'ils ne sont pas inspirés seulement par de frivoles prétentions, se sont renouvelés contre la Chambre des Pairs à l'occasion de la Constitution de Bonaparte. On a dit que l'esprit humain avait fait de trop grands progrès en France pour supporter aucune distinction héréditaire. M. Necker a traité 15 ans plus tôt cette question, en publiciste que n'épouvantait ni la vanité des préjugés, ni la fatuité des théories. Il me semble reconnu par tous les penseurs que la considération dont un élément conservateur entoure un gouvernement est au profit de la liberté comme de l'ordre, en rendant l'action de la force moins nécessaire. Quel obstacle y aurait-il donc en France plutôt qu'en Angleterre à l'existence d'une chambre des pairs nombreuse, imposante et éclairée? Les éléments en existent, et nous voyons déjà combien il serait facile de les combiner heureusement. Quoi ? Dira-t-on encore ? Car tous les dictons politiques valent la peine d'être combattus à cause de la multitude d'esprits communs qui les répètent. Quoi ? Vous voulez donc que la France ne soit qu'une copie et une mauvaise copie du gouvernement d'Angleterre ? En vérité, je ne vois pas pourquoi les Français, ni toute autre nation, devraient rejeter l'usage de la boussole parce que ce sont les Italiens qui l'ont découverte. Il y a dans l'administration d'un pays, dans ses finances, dans son commerce, dans ses armées, beaucoup de choses qui tiennent aux localités et qui doivent différer selon les lieux. Mais les bases d'une constitution sont les mêmes partout. La forme républicaine ou monarchique est commandée par l'étendue et la situation de l'État. Mais il y a toujours 3 éléments donnés par la nature, la délibération, l'exécution, et la conservation de ces 3 éléments sont nécessaires pour garantir aux citoyens leur liberté, leur fortune, le développement paisible de leurs facultés et les récompenses dues à leur travail. Quel est le peuple à qui de tels droits ne soient pas nécessaires? Et par quels autres principes que par ceux de l'Angleterre peut-on en obtenir la jouissance durable? Tous les défauts même qu'on se plaît à attribuer aux Français peuvent-ils servir de prétexte pour leur refuser de tels droits? En vérité, quand les Français seraient des enfants mutinés, comme leurs grands-parents de l'Europe le prétendent, je conseillerais d'autant plus de leur donner une constitution qui fût à leurs yeux la garantie de l'équité dans ceux qui les gouvernent. Car les enfants mutinés, quand ils sont en si grand nombre, peuvent plus facilement être corrigés par la raison que comprimés par la force. Il faudra du temps, en France, avant de pouvoir créer une aristocratie patriotique, car la Révolution ayant été dirigée plus encore contre les privilèges des nobles que contre l'autorité royale, les nobles secondent maintenant le despotisme comme leur sauvegarde. On pourrait dire avec raison que cet état de choses est un argument contre la création d'une Chambre des pairs, comme trop favorable au pouvoir de la couronne. Mais d'abord, il est de nature, d'une chambre haute, en général, de s'appuyer au trône. Et l'opposition des grands seigneurs d'Angleterre est presque toujours en minorité. D'ailleurs, on peut faire entrer dans une chambre des pairs beaucoup de nobles amis de la liberté, et ceux qui ne le seraient pas aujourd'hui le deviendraient, par le seul fait que l'exercice d'une grande magistrature éloigne de la vie de cour et rattache aux intérêts de l'État. Je ne craindrais point de professer un sentiment que beaucoup de personnes appelleront aristocratique, mais dont toutes les circonstances de la Révolution française m'ont pénétré. C'est que les nobles qui ont adopté la cause du gouvernement représentatif, et par conséquent de l'égalité devant la loi, sont en général les Français les plus vertueux et les plus éclairés dont nous ayons encore à nous vanter. Ils réunissent, comme les Anglais, l'esprit de chevalerie à l'esprit de liberté. Ils ont de plus le généreux avantage de fonder leur opinion sur leurs sacrifices, tandis que le tiers-État doit nécessairement trouver son intérêt particulier dans l'intérêt général. Enfin, ils ont à supporter tous les jours l'inimitié de leur classe, quelquefois même de leur famille. On leur dit qu'ils sont traîtres à leur ordre parce qu'ils sont fidèles à la patrie. Tandis que les hommes de l'extrême opposé, les démocrates sans frein de raison ni de morale, les ont persécutés comme des ennemis de la liberté, en ne considérant que leurs privilèges et en ne croyant pas, quoique bien à tort, à la sincérité du renoncement. Ces illustres citoyens, qui se sont volontairement exposés à tant d'épreuves, sont les meilleurs gardiens de la liberté sur lesquels un État puisse compter. Il faudrait créer pour eux une chambre des pairs, quand la nécessité de cette institution, dans une monarchie constitutionnelle, ne serait pas reconnue jusqu'à l'évidence. Aucun genre d'assemblée délibérante, soit démocratique, soit héréditaire, ne peut réussir en France. Les Français ont trop d'envie de briller, et le besoin de faire effet les porte toujours d'un extrême à l'autre. Il suffit donc, disent certains hommes qui se font tuteurs de la nation, pour la déclarer en minorité perpétuelle, il suffit à la France d'États provinciaux, au lieu d'une assemblée représentative. Certes, je dois respecter plus que personne les assemblées provinciales, puisque mon père est le premier et le seul entre les ministres qui en est établi, et qui ait perdu sa place pour les avoir soutenus contre les parlements. Il est très sage, sans doute, dans un pays aussi étendu que la France, de donner aux autorités locales plus de pouvoir, plus d'importance qu'en Angleterre. Mais quand M. Necker proposa d'assimiler par les assemblées provinciales les pays appelés d'élection aux pays d'État, c'est-à-dire de donner aux anciennes provinces les privilèges qui n'étaient possédés que par celles dont la réunion à la France était plus récente. Il y avait à Paris un parlement qui pouvait refuser d'enregistrer les édits Bursault ou toute autre loi émanée directement du trône. C'était une très mauvaise ébauche du gouvernement représentatif que ce droit du parlement. Mais enfin, c'en était une. Et maintenant que toutes les anciennes limites du trône sont renversées, que seraient 33 assemblées provinciales relevant du despotisme ministériel et n'ayant aucune manière d'y mettre obstacle? Il est bon que des assemblées locales discutent la répartition des impôts et vérifient les dépenses de l'État. Mais les formes populaires dans les provinces subordonnées à un pouvoir central sans bornes, c'est une monstruosité politique. Il faut le dire avec franchise, aucun gouvernement constitutionnel ne peut s'établir si, au début, on fait entrer dans toutes les places, celles de députés comme celles d'agents du pouvoir, les ennemis de la Constitution même. La première condition pour que le gouvernement représentatif marche, c'est que les élections soient libres, car alors elles amèneront des hommes qui auront de bonne foi le désir de voir réussir l'institution dont ils feront partie. Un député disait, à ce qu'on prétend, en société, L'on m'accuse de n'être pas pour la charte constitutionnelle. On a bien tort. Je suis toujours à cheval sur cette charte. Il est vrai que c'est pour la crever. » Après ce propos charmant, il est probable que ce député trouverait pourtant très mauvais qu'on soupçonnât sa bonne foi en politique. Mais il est trop fort de vouloir réunir le plaisir de révéler ses secrets avec l'avantage de les garder. Pense-t-on qu'avec ses intentions cachées, ou plutôt trop connues, l'expérience du gouvernement représentatif soit faite en France? Un ministre a déclaré nouvellement à la Chambre des députés que, de tous les pouvoirs, celui sur lequel il faut que l'autorité royale exerce le plus d'influence, c'est le pouvoir électoral. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les représentants du peuple doivent être nommés par le roi. Dans ce cas, les chambellans devraient l'être par le peuple. Qu'on laisse la nation française élire les hommes qu'elle croira dignes de sa confiance. Qu'on ne lui impose pas des représentants, et surtout des représentants choisis parmi les ennemis constants de tout gouvernement représentatif. Alors, seulement alors, le problème politique sera résolu en France. On peut, je crois, considérer comme une maxime certaine que, quand les institutions libres ont duré 20 ans dans un pays, c'est à elles qu'il faut s'en prendre, si chaque jour on ne voit pas une amélioration dans la morale, dans la raison et dans le bonheur de la nation qui les possède. C'est à ces institutions parvenues à un certain âge, pour ainsi dire, à répondre des hommes. Mais, dans les premiers jours d'un nouvel établissement politique, c'est aux hommes à répondre des institutions, car on ne peut en aucune manière juger de la force de la citadelle si les commandants en ouvrent les portes ou cherchent à en miner les fondements. Chapitre 10. De l'influence du pouvoir arbitraire sur l'esprit et le caractère d'une nation. Frédéric II, Marie-Thérèse et Catherine II ont inspiré une si juste admiration pour leur talent de gouverner qu'il est très naturel que, dans les pays où leur souvenir est encore vivant et leur système exactement suivi, l'on sente moins qu'en France la nécessité d'un gouvernement représentatif. Le régent et Louis XV, au contraire, ont donné dans le dernier siècle le plus triste exemple de tous les malheurs, de toutes les dégradations attachées au pouvoir arbitraire. Nous le répétons donc, nous n'avons ici en vue que la France. C'est elle qui ne doit pas souffrir qu'après 27 années de révolution, on la prive des avantages qu'elle a recueillis et qu'on lui fasse porter le double déshonneur d'être vaincue au-dedans comme au-dehors. Des partisans du pouvoir arbitraire citent les règnes d'Auguste dans l'Antiquité, d'Élisabeth et de Louis XIV dans les temps modernes, comme une preuve que les monarchies absolues peuvent, au moins, être favorables au progrès de la littérature. Les lettres du temps d'Auguste n'étaient guère qu'un art libéral, étranger aux intérêts politiques. Sous Élisabeth, la réforme religieuse excitait les esprits à tous les genres de développement, et le pouvoir les favorisait d'autant plus que sa force consistait dans l'établissement même de cette réforme. Les progrès littéraires de la France sous Louis XIV, comme nous l'avons déjà dit dans le commencement de cet ouvrage, ont été causés par le développement intellectuel que les guerres civiles avaient excité. Ces progrès ont conduit à la littérature du XVIIIe siècle, et loin qu'on puisse attribuer au gouvernement de Louis XV les chefs-d'œuvre de l'esprit humain qui ont paru à cette époque, il faut les considérer presque tous comme des attaques contre ce gouvernement. Le despotisme, donc, s'il entend bien ses intérêts, n'encouragera pas les lettres, car les lettres mènent à penser, et la pensée juge le despotisme. Bonaparte a dirigé les esprits vers les succès militaires. Il avait parfaitement raison, selon son but. Il n'y a que deux genres d'auxiliaires pour l'autorité absolue. Ce sont les prêtres ou les soldats. Mais n'y a-t-il pas, dit-on, des despotismes éclairés, des despotismes modérés? Toutes ces épithètes, avec lesquelles on se flatte de faire illusion sur le mot auquel on les adjoint, ne peuvent donner le change aux hommes de bon sens. Il faut, dans un pays comme la France, détruire les Lumières si l'on ne veut pas que les principes de liberté renaissent. Pendant le règne de Bonaparte et depuis, on a imaginé un troisième moyen, c'est de faire servir l'imprimerie à l'oppression de la liberté, en n'en permettant l'usage qu'à de certains écrivains, chargés de commenter toutes les erreurs avec d'autant plus d'impudence qu'il est interdit de leur répondre. C'est consacrer l'art d'écrire à la destruction de la pensée, et la publicité même aux ténèbres. Mais cette espèce de jonglerie ne saurait subsister longtemps. Quand on veut commander sans loi, il ne faut s'appuyer que sur la force, et non sur des arguments. Car bien qu'il soit défendu de les réfuter, la fausseté palpable de ces arguments donne envie de les combattre. Et pour bien faire taire les hommes, le mieux est encore de ne pas leur parler. Certainement, il serait injuste de ne pas reconnaître que plusieurs souverains, en possession du pouvoir arbitraire, ont su en user avec sagesse. Mais est-ce sur un hasard qu'il faut fonder le sort des nations ? Je citerai à cette occasion un mot de l'empereur Alexandre qui me paraît digne d'être consacré. J'eus l'honneur de le voir à Pétersbourg, dans le moment le plus remarquable de sa vie, lorsque les Français s'avançaient sur Moscou et qu'en refusant la paix que Napoléon lui offrit dès qu'il se crut vainqueur, Alexandre triomphait de son ennemi plus habilement que ne l'ont fait depuis ses généraux. « Vous n'ignorez pas, me dit l'empereur de Russie, que les paysans russes sont esclaves. Je fais ce que je peux pour améliorer leur sort graduellement dans mes domaines, mais je rencontre ailleurs des obstacles que le repos de l'Empire m'ordonne de ménager. Sire, lui répondis-je, je sais que la Russie est maintenant heureuse, quoiqu'elle n'ait d'autre constitution que le caractère personnel de votre majesté. Quand le compliment que vous me faites aurait de la vérité, répondit l'empereur, je ne serai jamais qu'un accident heureux. Je crois difficile que de plus belles paroles soient prononcées par un monarque dont la situation pourrait l'aveugler sur le sort des hommes. Non seulement le pouvoir arbitraire livre les nations aux chances de l'hérédité, mais les rois les plus éclairés, s'ils sont absolus, ne sauraient, quand ils le voudraient, encourager dans leur nation la force et la dignité du caractère. Dieu et la loi peuvent seuls commander en maître à l'homme sans l'avilir. Se représente-t-on comment des ministres tels que Lord Chatham, M. Pitt, M. Fox, auraient été supportés par les princes qui ont nommé le cardinal Dubois ou le cardinal de Fleury? Les grands hommes de l'histoire de France, les Guise, Coligny, Henri IV, se sont formés dans les temps de troubles, parce que ces troubles, malheureux d'ailleurs, empêchaient l'action étouffante du despotisme et donnaient à quelques individus une grande importance. Mais il n'y a que l'Angleterre où la vie politique soit régularisée de telle manière que, sans agiter l'État, le génie et la grandeur d'âme puissent naître et se montrer. Depuis Louis XIV jusqu'à Louis XVI, un demi-siècle s'est écoulé. Véritable modèle de ce qu'on appelle le gouvernement arbitraire, quand on veut le représenter sous les plus douces couleurs. Il n'y avait pas de tyrannie, parce que les moyens manquaient pour l'établir. Mais on ne pouvait dérober quelque liberté que par le désordre de l'injustice. Il fallait, si l'on voulait être quelque chose ou réussir dans une affaire quelconque, étudier l'intrigue des cours, la plus misérable science qui ait jamais dégradé l'espèce humaine. Il ne s'agit là ni de talent ni de vertu, car jamais un homme supérieur n'aurait le genre de patience qu'il faut pour plaire à un monarque élevé dans les habitudes du pouvoir absolu. Les princes ainsi formés sont si persuadés que c'est toujours l'intérêt personnel qui inspire ce qu'on leur dit, qu'on ne peut avoir d'influence sur eux qu'à leur insu. Or, pour réussir ainsi, être là toujours vaut mieux que tous les talents possibles. Les princes sont avec les courtisans dans le même rapport que nous avec ceux qui nous servent. Nous trouverions mauvais qu'ils nous donnassent des conseils, qu'ils nous parlassent avec force sur nos intérêts mêmes. Mais nous sommes fâchés de leur voir un visage mécontent, et quelques mots qu'ils nous disent dans un moment opportun, quelques flatteries qui semblent leur échapper, nous domineraient complètement si nos égaux que nous rencontrons en sortant de chez nous ne nous apprenaient pas ce que nous sommes. Les princes, n'ayant jamais affaire qu'à des serviteurs de bon goût, qui s'insinuent plus facilement dans leur faveur que nos gens dans la nôtre, vivent et meurent sans avoir jamais l'idée des choses telles qu'elles sont. Les courtisans, en étudiant le caractère de leur maître avec beaucoup de sagacité, n'acquièrent cependant aucune lumière véritable, même sur la connaissance du cœur humain, du moins sur celle qu'il faut pour diriger les nations. Un roi devrait se faire une règle de prendre pour premier ministre un homme qui lui déplut comme courtisan, car jamais un génie supérieur ne peut se plier au point juste qu'il faut pour captiver ce qu'on encense. Un certain tact, moitié commun et moitié fin, sert pour avancer dans les cours. L'éloquence, le raisonnement, toutes les facultés transcendantes de l'esprit et de l'âme scandaliseraient comme de la rébellion ou seraient accablées de ridicule. Quels discours inconvenants, quels projets ambitieux, dirait l'un. Que veut-il, que prétend-il, dirait l'autre. Et le prince partagerait l'étonnement de sa cour. L'atmosphère de l'étiquette finit par agir tellement sur tout le monde que je ne sais personne d'assez audacieux pour articuler une parole signifiante dans le cercle des princes qui sont restés enfermés dans leur cour. Il faut se borner inévitablement dans les conversations, au beau temps, à la chasse, à ce qu'on a bu la veille, à ce qu'on mangera le lendemain, enfin à tout ce qui n'a de sens ni d'intérêt pour personne. Quelle école cependant pour l'esprit et pour le caractère. Quel triste spectacle qu'un vieux courtisan qui a passé de longues années dans l'habitude d'étouffer tous ses sentiments, de dissimuler ses opinions, d'attendre le souffle d'un prince pour respirer et son signe pour se mouvoir. De tels hommes finissent par gâter le plus beau des sentiments, le respect pour l'âge avancé, quand on les voit courbés par l'habitude des révérences, ridés par les faux sourires, pâles d'ennui plus encore que de vieillesse, et se tenant debout des heures entières sur leurs jambes tremblantes dans ces salons antichambres où s'asseoir à 80 ans paraîtrait presque une révolte. On aime mieux dans ce métier les jeunes gens étourdis et fats qui savent manier avec hardiesse la flatterie envers leurs maîtres, l'arrogance envers leurs inférieurs, et qui méprisent l'espèce humaine au-dessus comme au-dessous d'eux. Ils s'en vont ainsi, ne se confiant qu'en leur propre mérite, jusqu'à ce qu'une disgrâce les réveille de l'enivrement de la sottise et de l'esprit tout ensemble. Car ce mélange est nécessaire pour réussir dans les intrigues de cour. Or, en France, de rang en rang, il y a toujours eu des cours, c'est-à-dire des maisons où l'on distribuait une certaine quantité de crédit à l'usage de ceux qui voulaient de l'argent et des places. Les flatteurs du pouvoir, depuis le commis jusqu'au chambellan, ont pris cette flexibilité de langage, cette facilité à tout dire comme à tout cacher, ce ton tranchant dans le sens de la force, cette condescendance pour la mode du jour, comme pour une puissance, qui ont fait croire à la légèreté dont on accuse les Français. Et cependant, cette légèreté ne se trouve que dans l'essaim des hommes qui bourdonnent autour du pouvoir. Il faut qu'ils soient légers pour changer rapidement de parti. Il faut qu'ils soient légers pour n'entrer à fond dans aucune étude, car autrement, il leur en coûterait trop de dire le contraire de ce qu'ils auraient sérieusement appris. En ignorant beaucoup, on affirme tout plus facilement. Il faut qu'il soit léger, enfin, pour prodiguer, depuis la démocratie jusqu'à la légitimité, depuis la République jusqu'au despotisme militaire, toutes les phrases les plus opposées par le sens, mais qui se ressemblent néanmoins entre elles, comme des personnes de la même famille, également superficielles, dédaigneuses, est faite pour ne présenter jamais qu'un côté de la question, par opposition à celui que les circonstances ont battu. Les ruses de l'intrigue se mêlant maintenant à la littérature comme à tout le reste, il n'y a pas une possibilité pour un pauvre lecteur français d'apprendre jamais autre chose que ce qu'il convient de dire, et non ce qui est. Dans le XVIIIe siècle, au contraire, les puissants ne se doutaient pas de l'influence des écrits sur l'opinion, et ils laissaient la littérature à peu près aussi tranquille que les sciences physiques le sont encore, aujourd'hui. Les grands écrivains ont tous combattu, avec plus ou moins de ménagement, les diverses institutions qui s'appuient sur des préjugés. Mais qu'est-il arrivé de ce combat ? Que les institutions ont été vaincues. On pourrait appliquer au règne de Louis XV et au genre de bonheur qu'on y trouvait ce que disait cet homme qui tombait d'un troisième étage : cela va bien, pourvu que cela dure. Les gouvernements représentatifs, m'objectera-t-on encore, n'ont point existé en Allemagne, et cependant les Lumières y ont fait d'immenses progrès. Rien ne se ressemble moins que l'Allemagne et la France. Il y a un esprit de méthode dans les gouvernements germaniques qui diminue de beaucoup l'ascendant irrégulier des cours. On n'y voit point de coterie, de maîtresse, de favori, ni même de ministre qui puisse changer l'ordre des choses. La littérature va son chemin sans flatter personne. La bonne foi du caractère et la profondeur des études sont telles que dans les troubles civils même, il serait impossible de forcer un écrivain allemand à ces tours de passe-passe qui ont fait dire avec raison, en France, que le papier souffre tout, tant on exige de lui. Vous avouez donc, me dira-t-on, que le caractère français a des défauts invincibles qui s'opposent aux lumières comme aux vertus dont la liberté ne saurait se passer. Nullement, je dis qu'un gouvernement arbitraire, mobile, capricieux, instable, plein de préjugés et de superstitions à quelques égards, de frivolité et d'immoralité à d'autres, que ce gouvernement, comme il a existé autrefois en France, n'avait laissé de connaissances, d'esprit et d'énergie qu'à ses opposants. Et s'il est impossible qu'un tel ordre de choses s'accorde avec le progrès des Lumières, il est encore plus certain qu'il est inconciliable avec la pureté des mœurs et la dignité du caractère. On s'aperçoit déjà, malgré les malheurs de la France, que, depuis la Révolution, le mariage y est beaucoup plus respecté que sous l'Ancien Régime. Or, c'est sur le mariage que reposent les mœurs et la liberté. Comment, sous un gouvernement arbitraire, les femmes se seraient-elles renfermées dans la vie domestique et n'auraient-elles pas employé tous leurs moyens de séduction pour influer sur le pouvoir ? Ce n'est assurément pas l'enthousiasme des idées générales qui les animait, mais le désir d'obtenir des places pour leurs amis. Et rien n'était plus naturel, dans un pays où les hommes en crédit pouvaient tout, où ils disposaient des revenus de l'État, où rien ne les arrêtait que la volonté du roi, modifiée nécessairement par les intrigues de ceux qui l'entouraient. Comment se serait-on fait scrupule d'employer le crédit des femmes en faveur pour obtenir d'un ministre une exception quelconque à une règle qui n'existait pas ? Croit-on que, sous Louis XIV, Madame de Montespan, Madame du Barry, sous Louis XV, ait jamais reçu un refus des ministres ? Et, sans approcher de si près du trône, quel était le cercle où la faveur n'agit pas comme à la cour et où chacun n'employa pas tous les moyens possibles pour parvenir ? Dans un pays, au contraire, qui n'est réglé que par la loi, quelle femme aurait l'inutile hardiesse de solliciter une injustice ou de compter plus sur ses instances que sur les titres réels de ceux qu'elle recommande ? Ce n'est pas seulement la corruption des mœurs qui résulte de ces démarches continuelles, de cette activité d'intrigue, dont les femmes françaises, surtout celles du premier rang, n'ont que trop donné l'exemple. Mais les passions dont elles sont susceptibles, et que la délicatesse même de leurs organes rend plus vives, dénaturent en elles tout ce que leur sexe a d'aimable. Le véritable caractère d'une femme, le véritable caractère d'un homme, c'est dans les pays libres qu'il faut le connaître et l'admirer. La vie domestique inspire aux femmes toutes les vertus. Et la carrière politique, loin d'habituer les hommes à mépriser la morale ainsi qu'un vieux comte de nourrice, exerce sans cesse les fonctionnaires publics au sacrifice d'eux-mêmes, à l'exaltation de l'honneur, à toutes les grandeurs de l'âme que la présence habituelle de l'opinion développe infailliblement. Enfin, dans un pays où les femmes sont au centre de toutes les intrigues, parce que c'est la faveur qui gouverne tout, les mœurs de la première classe n'ont aucun rapport avec celles de la nation, et nulle sympathie ne peut s'établir entre les salons et le pays. Une femme du peuple en Angleterre se sent un rapport avec la reine qui a soigné son mari, élevé ses enfants, comme la religion et la morale le commandent à toutes les épouses et à toutes les mères. Mais le genre de mœurs qu'entraîne le gouvernement arbitraire transforme les femmes en une sorte de troisième sexe factice, triste production de l'ordre social dépravé. Les femmes, cependant, peuvent être excusables de prendre les choses politiques telles qu'elles sont et de se plaire dans les intérêts vifs dont leur destinée naturelle les sépare. Mais qu'est-ce que des hommes élevés par le gouvernement arbitraire ? Nous en avons vu au milieu des Jacobins, sous Bonaparte et dans les camps des étrangers, partout, excepté dans l'incorruptible bande des Amis de la Liberté. Ils s'appuient sur les excès de la Révolution pour proclamer le despotisme. Et 25 ans sont opposés à l'histoire du monde qui ne présente que les horreurs commises par la superstition et la tyrannie. Pour accorder quelque bonne foi à ces partisans de l'arbitraire, il faut supposer qu'ils n'aient rien lu de ce qui précède l'époque de la Révolution en France. Et nous en connaissons qui peuvent largement fonder leur justification sur leur ignorance. Notre Révolution, comme nous l'avons déjà dit, a presque suivi les différentes phases de celle d'Angleterre, avec la régularité qu'offrent les crises d'une même maladie. Mais la question qui agite aujourd'hui le monde civilisé consiste dans l'application de toutes les vérités fondamentales sur lesquelles repose l'ordre social. L'avidité du pouvoir a fait commettre aux hommes tous les forfaits dont l'histoire est souillée. Le fanatisme a secondé la tyrannie. L'hypocrisie et la violence, la ruse et le fer ont enchaîné, trompé, déchiré l'espèce humaine. Deux périodes ont seules illuminé le globe. C'est l'histoire de quelques siècles de la Grèce et de Rome. L'esclavage, en resserrant le nombre des citoyens, permit que le gouvernement républicain pût s'établir même dans des États assez étendus, et les plus grandes vertus en sont résultées. Le christianisme, en affranchissant depuis les esclaves, en civilisant le reste de l'Europe, a fait à l'existence individuelle un bien source de tous les autres. Mais le désordre dans l'ordre, le despotisme, s'est constamment maintenu dans plusieurs pays. Et toutes les pages de notre histoire sont ensanglantées, ou par des massacres religieux, ou par des assassinats judiciaires. Tout à coup, la Providence a permis que l'Angleterre ait résolu le problème des monarchies constitutionnelles. Et l'Amérique, un siècle plus tard, celui des républiques fédératives. Depuis cette époque, ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux pays, il ne s'est versé une goutte de sang injustement par les tribunaux. Depuis 60 ans, les querelles religieuses ont cessé en Angleterre. Il n'en a jamais existé en Amérique. Enfin, le venin du pouvoir qui a corrompu tant d'hommes depuis tant de siècles a subi par les gouvernements représentatifs l'inoculation salutaire qui en détruit toute la malignité. Depuis la bataille de Culloden en 1746, qu'on peut considérer comme la fin des troubles civils qui avaient commencé 100 ans auparavant, on ne saurait citer un abus du pouvoir en Angleterre. Il n'est pas un citoyen honnête qui n'ait dit « notre heureuse constitution », parce qu'il n'en est pas un qui ne se soit senti protégé par elle. Cette chimère, car c'est ainsi qu'on a toujours appelé le beau, est là, réalisé sous nos yeux. Quel sentiment, quel préjugé, quel endurcissement de tête et de cœur peut faire qu'en se rappelant ce que nous lisons dans notre histoire, on ne préfère pas les 60 années dont l'Angleterre vient de nous offrir l'exemple. Nos rois, comme les siens, ont été tour à tour bons ou mauvais, mais dans aucun temps leur règne n'offre 60 ans de paix intérieure et de liberté, tout ensemble. Rien de pareil n'a seulement été rêvé possible à une autre époque. Le pouvoir est la sauvegarde de l'ordre, mais il en est aussi l'ennemi par les passions qu'il excite. Réglez-en l'exercice par la liberté publique, et vous aurez banni ce mépris de l'espèce humaine qui met à l'aise tous les vices et justifie l'art d'en tirer parti.